Linda Christelle Ballier.
Auditeurs, auditrices de Radio de la Paix, bonjour et bienvenue à cette première session de l'actualité de ce jeudi 25 juillet 2024. Toujours en tournée de sensibilisation sur les élections, Ibrahim Koulibaly Kibier était hier à l'école nationale de police d'Abidjan où le président de la CEI a situé les responsabilités des agents de bureau de vote, institution dont la plateforme de la société civile PECSI demande la dissolution pour faire place à des acteurs civils afin d'avoir une présidentielle sans violence en 2025. Vous entendrez à cet effet son président Ebrahim Rémi Yao. Et puis des journalistes et acteurs de la société civile sont actuellement formés à Yamoussoukro sur l'utilisation des données publiques issues du domaine minier qui visent à mieux les outiller dans l'analyse des données publiques de ce secteur. Crise au Bénin, Bénin-Niger. Une délégation nigérienne est arrivée à Cotonou hier pour rencontrer le président Patrice Talon. La revue des titres des journaux ivoiriens parue ce jeudi sera l'affaire de Ghislain Koulibaly. Et puis, dans l'invité de la rédaction pour terminer, le chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité, ISS, interrogé par Soro Adams, analysera les récentes accusations de déstabilisation du Burkina Faso par la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ça sera en toute fin d'édition et Asanvo Williams sera interrogé par Soro Adams. Dans le cadre de la campagne d'éducation civique et électorale initiée depuis un mois par la Commission électorale indépendante, le président de l'institution était à l'École nationale de police hier mercredi. Ibrahim Koulibaly Kibier a prononcé une conférence dont le thème était l'élection, et ce devant un public nombreux composé d'élèves commissaires, officiers et sous-officiers de police. Compte rendu, Junior Cardin.
Comme lors des précédentes étapes, le président de la CEI a défini les différents acteurs ainsi que l'organisation des élections. Sur l'indépendance de la commission, Ibrahim Kibier Koulibaly a rappelé les garanties qui encadrent l'institution.
Lorsque vous êtes nommé pour 6 ans, personne ne peut interrompre votre mandat dans son exécution. Mais avant même cette inamovibilité, vous prêtez serment. Et ensuite, il y a l'irresponsabilité. Ça veut dire que moi, Kibier, dans l'exercice de mes fonctions, je peux prendre des décisions qui peuvent vous contrarier plus d'un. La loi dit qu'on ne peut pas m'interpeller. On ne peut pas me juger, on ne peut pas me mettre en prison pour cela. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'immunité de poursuite. Et puis enfin, les décisions de la commission électorale indépendante sont susceptibles de voir de recours.
Concernant la question de la responsabilité des agents de bureau de vote qui sont des fonctionnaires recrutés par les préfets, suivant les précisions du président de la CEI.
Ils ne sont pas membres de la commission électorale. Ils exercent occasionnellement des missions qui sont relatives à la matière électorale, mais ils ne sont pas des agents. C'est vrai, ils agissent au nom de la commission, mais pas pour le compte de la commission. C'est pour cette raison que vous allez constater que dans leur mission, ils dressent procès verbal qu'eux-mêmes signent. Et nous, nous avons charge de vérifier si ce qu'ils ont fait est conforme à la loi, ce après quoi nous endossons ce qu'ils ont dit. Ils sont responsables devant la loi, ils sont responsables de leurs actes. Ils peuvent être poursuivis aussi bien disciplinairement parce que pour l'essentiel ils sont des fonctionnaires ou pénalement parce qu'ils sont des citoyens.
Le président de la CEI a indiqué devant les élèves policiers que le vote du personnel d'astreinte est possible là où il est en mission seulement pour l'élection du président de la République puisqu'il n'y a qu'une circonscription unique.
Et pour que l'on assiste à une présidentielle sans violence en 2025, la plateforme de la société civile PECSI demande la dissolution de la commission électorale indépendante au vu de sa composition actuelle pour laisser place à des acteurs civils regroupant en son sein 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne. La PECSI a échangé en marge des futures échéances avec le PDCI RDA ainsi que des chancelleries étrangères le week-end dernier. Plus de précisions avec son président Ebrahim Rémi Yao.
La première des choses, nous demandons la dissolution pure et simple de la commission électorale existante, car elle n'a jamais été indépendante. Au vu de sa composition, dont 90% sont des militants actifs du RHDP et le reste pourcentage, disons, ce sont les membres de l'opposition ivoirienne.
Vous portez des accusations quand même graves, monsieur Ebrahim. Avez-vous la preuve de ce que vous dites?
Non, nous ne portons pas des accusations graves. Il faut vérifier. Hein. Donc, les partis politiques en Côte d'Ivoire ont pris la commission électorale en otage. Il faut le dire net. Nous estimons qu'il faut la confier à la société civile, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne sont pas affiliés à des partis politiques. de sorte qu'on puisse connaître réellement la force et faiblesse de chaque parti politique.
Est-ce qu'il en existe des hommes et des femmes qui ne sont pas affiliés à des partis politiques en Côte d'Ivoire? Est-ce que la société civile ivoirienne n'est pas inféodée par les partis politiques?
Ah non, en 2022, nous avons déployé des observateurs avec nos propres moyens. Nous n'avons eu aucune subvention, ni de l'État, ni d'aucune entité. En 2023, nous avons déployé 715. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on a déployé plus de 700 personnes pour aller sur le terrain pour constater et faire des propositions. Les partis politiques ont refusé de nous accompagner ainsi que le gouvernement. Mais nous l'avions fait parce que nous refusons que les jeunes gens meurent à cause des élections en Côte d'Ivoire.
Vous écoutez Ebrahim Rémi Yao, il est le président de la plateforme PEXI, une fêtière de 37 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne. Il était interrogé par Gapienan Ouattara. Depuis le lundi 22 juillet dernier, la ville de Yamoussoukro accueille un atelier de formation dédié aux journalistes et aux organisations de la société civile sur l'utilisation des données publiques issues du secteur minier. Cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des participants dans l'analyse et l'exploitation des données publiques afin de promouvoir la transparence et la responsabilité dans le secteur minier. Elle est organisée par la coopération allemande GIZ en collaboration avec le Centre d'excellence African Mine et environnement minier de l'Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
À quoi répondra cette formation dans un contexte où le secteur minier joue un rôle crucial dans le développement économique de la Côte d'Ivoire? Kouakou Yannick, conseiller technique, représentant du responsable composante du projet GIZ-GRSE.
De comprendre les enjeux du secteur minier, d'acquérir des compétences en collecte, en analyse, en visualisation des données, de développer des compétences en journalisme de données pour produire des rapports et articles informés.
Yannick Kouakou est revenu sur le contenu de cette formation qui permettra aux journalistes et les OSC de disposer de compétences nécessaires pour interpréter et relayer de manière efficace les données minérales.
Ces 5 jours de formation, vous participerez à des sessions plénières et interactives, des études de cas pratiques et des ateliers techniques. Vous apprendrez des experts sur des sujets allant de l'histoire du secteur minier au cadre juridique.
Professeur Yao Kouakou Alphonse, directeur de l'École supérieure des mines et par ailleurs coordonnateur du Centre d'excellence africain des mines et environnement de l'INPHB donne ici les ambitions de son institution.
L'INP adopte encore plus les standards internationaux et l'INP est bien classé donc dans les institutions d'enseignement supérieur. Nous avons l'intention donc de monter encore plus dans ces standards internationaux et d'avoir des formations qui sont à la hauteur donc de l'institution. Et bien sûr, ne pas rester une institution fermée, mais plutôt une institution ouverte au service de toute la Côte d'Ivoire en réseau avec toutes les autres universités du pays.
Cette formation sur l'utilisation des données publiques issues du secteur minier prendra fin le vendredi 26 juillet prochain.
On parle de biodiversité à présent avec notamment les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest qui s'étendent dans 4 pays dont la Côte d'Ivoire et qui bénéficieront d'un financement important pour leur protection et leur conservation. Ce financement qui provient de CEPF qui vise à préserver la biodiversité de ces écosystèmes reconnus pour leur richesse. Et pour préparer ce projet, l'ONG SOS Forêt a organisé récemment à Abidjan un atelier de travail visant à identifier les zones clés de conservation de la biodiversité en Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Christelle Yesso.
La forêt guinéenne d'Afrique de l'Ouest se doit d'être protégée, explique Odoupé Saint-Guillaume, cabinet officier à SOS Forêt.
Lorsqu'on dit qu'une espèce est endémique à une forêt, cela veut dire que c'est seulement à cet endroit qu'on pourrait retrouver l'espèce. Donc si aucune action de conservation n'est menée et que l'espèce disparaît, elle va disparaître de toute la planète. Donc voilà pourquoi il est important de mener des actions de conservation de ces espèces-là. Et l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir réviser les cabiers qui ont été initialement définis pour pouvoir orienter les actions de conservation.
Un cabier se définit comme une zone clé de conservation de la biodiversité et on en dénombre 17 en Côte d'Ivoire, nous dit Dr Camélan Marius, directeur exécutif de SOS Forêt.
En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs zones qui ont été repérées. La plupart de ces zones se superposent avec les aires protégées au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment les parcs et réserves. Vous avez par exemple le parc national de Taï, le parc national d'Azani, le parc national de Banco. Mais au-delà de ces aires protégées, il y a des zones qui ne sont pas des aires protégées, mais qui présentent une importance à la biodiversité, notamment la forêt des marais de Tanoui.
Les populations des zones bénéficiant de ce financement seront en effet positivement impactées, relève-t-il.
On peut définir une zone comme zone prioritaire de conservation, mais on a besoin de ressources. La mise en place de ces fonds-là pourront aider à soutenir nos communautés qui, bien qu'elles veulent protéger ces zones, ont besoin d'activités génératrices de revenus.
Notons que la forêt guinéenne d'Afrique de l'Ouest ne représente plus que 15% de sa superficie originelle.
Dans l'actualité, hors de nos frontières, une délégation nigérienne est arrivée hier mercredi à Cotonou pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. L'objectif de cette visite, décrisper et normaliser les relations entre les deux pays. Deux anciens chefs d'État du Bénin, notamment Nicéphore Soglo et Boni Yayi, sont à l'origine de cette démarche. Pour rappel, fin juin, ils ont rencontré le général Tiani à Niamey. Les questions de sécurité n'ont pas été occultées au cours de cette rencontre, dont les fameuses bases françaises qui formeraient au Bénin des terroristes contre le Niger, accusation rejetée par le président béninois Patrice Talon à plusieurs reprises. Notons que la délégation nigérienne achève sa mission ce jeudi, d'après Radio France Internationale. Et puis en sport, le tournoi olympique de football s'est ouvert hier pour le premier match comptant pour le premier tour. Le Maroc s'est imposé devant l'Argentine 2-1 après 2 heures d'interruption consécutive à des incidents et un but égalisateur argentin contesté, tandis que le Mali a été tenu en échec par Israël, 1-0. On reçoit dans ce studio Ghislain Koulibaly qui s'est chargé de parcourir pour vous les unes des journaux ivoiriens parus ce jeudi. On l'accueille pour la revue des titres. Bonjour Ghislain.
Bonjour Linda, bonjour à toutes et à tous.
Alors ce matin, les journaux nous plongent dans l'ambiance des JO 2024 à Paris.
Effectivement Linda, et le voyage du Premier ministre ivoirien pour Paris est à l'ordre du jour, comme on peut le voir chez Fraternité Matin qui titre « Jeux olympiques de Paris, le Premier ministre Beugré Mambé sur le terrain en France ». Le journal indique également le coût de préparation des 13 athlètes ivoiriens qui y participent, estimé à 450 millions de francs CFA. Le Patriote revient aussi sur cette information, précisant que Beugré Mambé est à Paris pour représenter le chef de l'État. Et cela suscite quelques interrogations chez le Nouveau Réveil qui pose cette question. Jeux olympiques de Paris le 26 juillet, bien qu'en France, Ouattara ne sera pas au JO. Pourquoi ? Autre mission dont il est question, Linda, c'est la visite du président de l'Assemblée nationale ivoirienne au Ghana. Les sœurs ivoiriennes nous présentent l'image d'Adama Big Togo et le président ghanéen. Les deux hommes, tous souriants, se serrant la main avec ce titre « Diplomatie parlementaire, Big Togo échange avec Nana Akufo-Addo », expliquant aussi que le président de l'Assemblée nationale a reçu les honneurs militaires au Parlement ghanéen. Quel sujet aborder lors de cette visite ? Voyons avec Soir Info qui dit ceci, en visite d'amitié et de travail à Accra, Big Togo aborde des sujets importants avec son homologue et le président ghanéen.
On s'intéresse également aux activités d'autres institutions de la Côte d'Ivoire, notamment la Commission électorale indépendante.
Son président Koulibaly Kubière poursuit cette tournée de sensibilisation. Il était hier en face des policiers et des élèves de l'école de police d'Abidjan. Ses propos sont relatés par l'Inter en ces termes. Il ne faut pas que l'élection soit source de crise. Le temps profite de cette sortie du président de la CEI pour rappeler ceci. L'audit de la liste électorale s'impose, pointant les exemples qui confondent Cuibière et mettant l'opposition, disant que l'opposition ne doit pas lâcher prise. Et puis Linda, on va parler transport. Voilà, transport. Et savez-vous que 629 bus de la Sutra sont cloués au sol ?
Non.
Voilà, c'est ce que nous apprend ce matin le Rassemblement qui revient sur la visite du ministre des Transports Amadou Koné à la Sutra. Mais il y a de l'espoir quand on lit le mandat qui informe qu'Amadou Koné déploie un véritable plan Marshall avec 300 autobus neufs et 50 cars VIP en renfort, 25 bateaux bus acquis et le salaire des agents réglé. Et puis voilà, pour terminer, ce sera un mot sur l'environnement. C'est une information que nous donne l'Inter, la Journée nationale de l'arbre sera célébrée le 29 juillet à Songon d'Agbé.
Merci beaucoup pour toutes ces informations dont relayées dans cette revue des titres. Vous serez de retour dans l'édition de 8h pour le même exercice. Pour clore cette édition, on vous propose l'invité de la rédaction. Il s'agit ce jour du chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité ISS qui se prononce sur les récentes allégations du président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, accusant la Côte d'Ivoire et le Bénin de vouloir déstabiliser son pays. William Assanvo est interrogé par Soro Adams.
Bonjour Monsieur William Assanvo.
Bonjour Monsieur Soro.
Récemment, précisément le 11 juillet 2024, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina, a porté de graves accusations et sur la Côte d'Ivoire et sur le Bénin, accusant ces deux pays d'abriter des bases visant à déstabiliser son pays, le Burkina. Qu'est-ce que cette situation vous inspire?
Alors, il faut peut-être signaler que ce n'est pas la première fois que le président burkinabé lance de telles accusations pour le cas de la Côte d'Ivoire. C'est effectivement la première fois qu'il évoque aussi le Bénin, mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que c'est la deuxième fois que de telles accusations sont portées. Alors, je pense que ce nouvel épisode illustre l'état de méfiance, l'état de défiance dans lequel les relations entre le Burkina Faso et plusieurs de ses pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire et le Bénin, se trouvent. C'est véritablement, je pense, un épisode qui rend encore beaucoup plus compliqué la coopération qu'il est nécessaire d'avoir entre ces pays-là, notamment pour faire face à la crise sécuritaire alimentée par l'activisme des groupes terroristes. Donc c'est une page assez problématique de la coopération au niveau bilatéral et même au niveau régional en Afrique de l'Ouest.
Faut-il s'en inquiéter sérieusement?
Oui, il faut s'inquiéter de cette absence de coopération entre les pays de la région. Il faut s'inquiéter de la fracture qu'on observe depuis plusieurs années, la fracture au niveau du bilatéralisme, donc de la relation entre plusieurs pays de la région, de la fracture au niveau du régionalisme, donc cette décision qui a été prise par le Burkina, le Mali et le Niger de sortie de la CEDEAO, c'est véritablement, je pense, un pas en arrière, sinon peut-être plusieurs pas en arrière, et tout au moins des évolutions qui ne sont pas de nature à permettre à la région de se retrouver pour faire face aux défis multiples auxquels elle est confrontée, notamment la crise sécuritaire.
Mais M. William Assanvo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ce sont deux pays frères et la Côte d'Ivoire abrite de nombreux ressortissants du Burkina Faso. Comment voyez-vous la chose?
Oui, ce sont effectivement des pays qui partagent plusieurs liens, des liens culturels, des liens historiques, des liens humains. Vous évoquez la présence de millions de ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais il faut peut-être aussi rappeler que c'est des pays qui, au fil de leur histoire, ont connu des épisodes de cette nature, des épisodes assez tendus. On se rappelle que il y avait des accusations portées contre le Burkina Faso lorsque la rébellion a éclaté en 2002 en Côte d'Ivoire, des accusations qui étaient portées contre ce pays-là qui avait abrité et faciliter l'émergence de cette rébellion-là. On se souvient aussi que en 2015, il y avait une tentative de coup d'État au Burkina Faso et il y avait aussi des accusations qui avaient été portées contre des dirigeants politiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, on est là face à un nouvel épisode de cette relation qui a connu des hauts et des bas. Et donc là, on est dans une période plutôt de bas. L'espoir qu'on peut formuler, c'est véritablement qu'on puisse sortir assez rapidement de cette période de défiance et de méfiance pour véritablement se retrouver, pour faire face aux défis qui sont communs aux deux pays, notamment dans leurs zones frontalières, les défis d'ordre sécuritaire, mais aussi les défis en termes de meilleure gouvernance de l'espace transfrontalier, répondre aux besoins des populations vivant dans ces espaces-là. On peut souhaiter véritablement que cette page se ferme le plus rapidement possible.
Mais que conseilleriez-vous concrètement aux deux pays, Côte d'Ivoire, Burkina et Burkina-Bénin?
Je pense qu'il faut véritablement attirer l'attention sur le fait que cette posture est véritablement de nature à continuer à alimenter déjà l'insécurité qui est problématique dans les zones frontalières que partagent ces pays-là. Donc, de la difficulté pour ces pays à pouvoir se retrouver autour de cet enjeu commun véritablement contribuera à une détérioration encore plus accrue de la situation. Et je pense que ce sera encore beaucoup plus compliqué de pouvoir apporter des solutions appropriées à cette crise si, très vite, il ne se retrouve pas derrière ce qui est le défi commun. Donc ce besoin de collaborer, ce besoin de s'entendre, ce besoin de se parler pour pouvoir apporter des solutions, des réponses aux besoins de leur population. Et ce sont les populations des pays concernés qui seront les premières victimes de cette situation si elle continue à se détériorer davantage.
Et en conclusion?
En conclusion, il y a véritablement un besoin de se lever à la hauteur des défis auxquels ces pays sont confrontés.
Je vous remercie, M. William Asambo.
Je vous en prie, M. Asambo.
C'était William Asambo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité ISS, invité de la rédaction aujourd'hui. Il était interrogé par Soro Adams. Et c'est la fin de ce bulletin dont voici le rappel des titres. Toujours en tournée de sensibilisation sur les élections, Ibrahim Koulibaly Kibière était hier à l'école nationale de police d'Abidjan où le président de la CEI a situé les responsabilités des agents de bureau de vote, institution la CEI, dont la plateforme de la société civile PECSI demande la dissolution pour faire place à des acteurs civils afin d'avoir une présidentielle sans violence en 2025. Et puis les journalistes et acteurs de la société civile sont actuellement formés à Yamoussoukro sur l'utilisation des données publiques issues du domaine minier, un atelier qui vise à mieux les outiller dans l'analyse des données publiques de ce secteur. Parlons de crise Bénin-Niger, une délégation nigérienne est arrivée hier mercredi à Cotonou pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous à 8h.
Radio de la paix, l'info juste et sans passion.